Le débat du jour. Nathanaël Vitran.
Passe ton bac d'abord. Ils me l'ont dit très fort. J'ai bossé comme un gros taré. Le jour venu, j'ai paniqué. Ils m'ont prévenu si tu le foires.
Foiré.
Ça fait 4 fois que tu passes ton bac, Alexandre.
Ta mère et moi, on n'en peut plus.
Passe ton baccalauréat. Passe ton baccalauréat pour ta maman et ton papa. Passe ton baccalauréat.
Passe ton bac d'abord. Le groupe Larry Girls chante l'impératif scolaire et ses désillusions. On s'est beaucoup gossé ces 10, 15, 20 dernières années de ce diplôme qui vient conclure le cycle secondaire en France et que désormais, près de 80% d'une classe d'âge obtient. Un passage obligé qui ne protège pourtant plus du chômage et qui n'est plus tout à fait non plus le sésame pour des études supérieures accomplies. Faire de longues études, d'ailleurs décrocher un ou plusieurs diplômes ne garantit pas non plus ni la réussite ni l'ascension sociale. Le contrat scolaire est-il rompu? C'est notre débat du jour, soyez les bienvenus. Et pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Paul de Coustin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au Figaro étudiant et vous suivez donc tous les dossiers en lien avec l'éducation. Également en ligne avec nous Marie Durubella, bonsoir. Vous êtes sociologue de l'éducation, vous avez notamment écrit « L'inflation scolaire, les désillusions de la méritocratie » paru aux éditions du Seuil. Et merci à tous les deux d'être avec nous. Première question, même si on ne va pas passer 20 minutes à parler du bac, est-ce que c'est encore un passage obligé? Et si oui, pour qui? Pour les élèves? Pour les parents, Paul de Coustin?
Alors c'est Jean-Pierre Chevènement, quand il était ministre de l'Éducation, qui en avait fait effectivement l'impératif de 80% d'une classe d'âge qui doit passer le baccalauréat. C'est quasiment le cas aujourd'hui, vu qu'en 2017, on était à 79,1% à peu près d'une génération à obtenir le diplôme. Donc, ça semble être un passage obligé aujourd'hui pour finir son lycée et effectivement espérer pouvoir rentrer à l'enseignement supérieur. En tout cas, le baccalauréat, c'est toujours aujourd'hui le diplôme qui permet d'entrer à l'université pour poursuivre des études plus longues.
Marie Durubella.
C'est normal pour un pays de dire quel est le niveau d'instruction générale qui paraît normal. Et on dit aujourd'hui, le bac, ok, 80%. Après, pour se placer, pour avoir un emploi, c'est bien sûr différent parce que c'est pas l'école qui va décider de la répartition des emplois, c'est l'économie. Et effectivement, ce qu'on observe actuellement, c'est qu'avoir que le bac, eh bien, c'est pas gagné au niveau à la fois de l'insertion et puis du type d'emploi qu'on va avoir. Hein. Le bac est aujourd'hui, on y reviendra sans doute, relativement dévalorisé par rapport aux chances qu'il donne dans le monde du travail. C'est bien pour ça que les jeunes veulent tous aller dans l'enseignement supérieur.
Ça veut dire que c'est un passage obligé, mais c'est le minimum, le strict minimum, et que ça n'ouvre plus de portes.
On peut dire nécessaire et pas suffisant, mais là, bon, il ne faut pas non plus exagérer. Hein. Les diplômes, ils sont nécessaires. Quand on sort après dans la vie, heureusement, il y a d'autres critères qui peuvent prendre davantage d'importance. Il ne faut pas non plus se dire, si j'ai pas mon bac, je suis condamné pour la vie. Ce n'est pas du tout ce qu'on observe.
Paul de Coustin, qu'est-ce qui va changer dans la nouvelle réforme du bac annoncée?
Alors, déjà, la forme du bac, c'est-à-dire l'examen en tant que tel, devrait changer. C'était dans le programme d'Emmanuel Macron pour la campagne présidentielle. Il sera plus ramassé, il y aura plus que 4 épreuves à l'examen terminal. Il y a encore un débat pour savoir quelles seront ces matières qui seront finalement choisies. Et cette réforme du baccalauréat, en fait, va avoir une incidence sur toute la façon dont va se dérouler le lycée, puisque on pourrait, par exemple, aller vers une suppression des filières. Là, je parle du baccalauréat général. Donc, les filières scientifiques, littéraires et économiques et sociales pourraient disparaître. Et on pourrait avoir un système de majeur-mineur, où, par exemple, les élèves qui préfèrent les matières plutôt scientifiques pourraient prendre, par exemple, les mathématiques comme matière principale et la physique ou la SVT en matière secondaire. Et tout cela pourrait se construire quand même autour d'un tronc commun de matière que chacun devrait suivre et qui serait jugé finalement à l'examen terminal et qui resterait les 4 matières qui représenteraient encore le baccalauréat bientôt. Donc l'échéance, c'est 2021 que s'est donné le gouvernement d'Édouard Philippe pour cette réforme.
Marie Durubella, ce serait important parce qu'aujourd'hui, les filières, en tout cas dans le baccalauréat général, font une grosse différence entre les baccalauréats.
Oui, absolument. Il y a vraiment des baccalauréats. Mais dans la réforme qui est envisagée, c'est pas forcément mieux, entre guillemets, je n'ai pas de jugement de valeur à porter, mais ça demande une aide auprès des jeunes qui est très importante. Parce que plus vous donnez de choix aux jeunes pour construire leur formation, après tout ça paraît sympathique, plus les jeunes qui ont autour d'eux des parents ou des gens qui peuvent les aider précisément, ça va prendre de l'importance. On a vu ça dans les pays du Nord. Il y a des pays du Nord comme ça. Le jeune construit sa formation. Bon, ok. Mais ça demande un travail d'accompagnement qui est très, très important. important et il faut s'assurer qu'il sera fait. Sinon, ça risque d'être encore plus inégalitaire hein, que le choix des séries actuellement.
Paul Descoustins, comment fonctionne l'orientation aujourd'hui au lycée ?
Alors, il y a des conseillers d'orientation qui sont dans les établissements, mais ils sont effectivement très critiques et on assume qu'ils ne remplissent pas leur rôle. Et on sait qu'il y a la pression des familles. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on veut un peu déconstruire. En tout cas, ce que vise la réforme, c'est par exemple de déconstruire la suprématie de la filière S, qui est devenue en fait la vraie filière générale, celle que tout le monde veut faire, parce que on dit que c'est celle qui ouvre le plus de portes. Donc, aujourd'hui, ce que propose le gouvernement, c'est de renforcer l'orientation dès l'entrée en seconde, mais particulièrement lors de l'année de terminale, avec un second professeur principal qui pourrait être là pour un suivi plus personnalisé des parcours, et un renforcement avec 2 semaines d'orientation prévues au sein du programme de l'année de terminale pour avoir un accompagnement vraiment plus personnalisé des élèves. Le but du gouvernement, c'est d'avoir une individualisation des parcours dans un lycée qui serait plus à la carte, donc plus à la disposition des élèves de choisir ce qu'ils ont vraiment envie de faire.
Alors corrigez-moi si je me trompe, mais je me souviens d'une étude qui expliquait que les fils de profs étaient ceux qui réussissaient le mieux jusqu'au bac et qu'ensuite les fils de cadres se trouvaient statistiquement privilégiés. Qu'en pensez-vous, Marie Durubella ?
Oui, ceci illustre bien qu'il n'y a pas que la valeur scolaire qui compte. Il y a aussi les représentations que les jeunes se font des métiers, il y a le marché du travail qui peut préférer à un moment prendre des garçons ou prendre des filles. Donc il ne faut pas non plus dire que tout se joue avec le diplôme à l'UE, c'est pas automatique, c'est jamais automatique. Hein. Mais disons que je voudrais revenir quand même sur ce qui vient d'être dit sur le bac. Individualiser, ça paraît très très sympathique, mais il faut quand même bien voir que l'essentiel à l'heure actuelle, dans l'articulation entre le bac et les études supérieures, les chances de succès dans le supérieur, c'est très déterminé par le niveau scolaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire aux jeunes, ah ben tu peux choisir ce que tu veux, ce qui te plaît, ce qui t'attire, c'est sympa. Mais là encore, si un jeune, depuis le collège, traîne un niveau extrêmement faible dans certaines matières, on pourra toujours individualiser ou bien faire vraiment du rattrapage à haute dose. Hein. Donc je trouve qu'à l'heure actuelle, mettre trop l'accent sur le choix, c'est peut-être, ou bien il faut bien prévenir les jeunes, que tout n'est pas possible. C'est un peu le problème de l'entrée dans le supérieur. On leur dit avec le bac, vous pouvez tout faire. Mais est-ce qu'on peut toujours, toujours tout recommencer, hein? Voilà la question.
Alors, je voudrais qu'on parle quand même des études supérieures, même si évidemment le bac est la porte d'entrée, on l'a bien compris. On a beaucoup parlé du phénomène d'inflation scolaire. Marie Durubella, vous avez écrit un livre sur le sujet il y a bientôt 10 ans. Vous pouvez peut-être rappeler en quoi ça consiste ?
L'idée de l'inflation, c'est un bien s'accroît, on distribue plus de monnaie par exemple hein, sur le marché, et du coup la monnaie perd de sa valeur. C'est ça l'idée de l'inflation, c'est une croissance qui entraîne la perte de valeur d'un bien. Alors en ce qui concerne la France, il est certain qu'il y a eu une explosion d'accès au bac qui est faramineuse. Hein. Dans les années 80, c'était un tiers d'une classe d'âge qui arrivait au bac, maintenant c'est effectivement 80%. Donc on a beaucoup plus de diplômés, que ce soit au niveau du bac et dans l'enseignement supérieur, où on a maintenant plus de 40% des gens qui ont un diplôme d'enseignement supérieur. Le problème, c'est que le marché du travail n'a pas évolué à la même vitesse. Hein, on n'a pas 40% d'emplois de cadre. On a un peu plus d'emplois de cadre, mais on a quoi ? 15%. Hein. Donc il y a un écart qui est croissant entre la distribution des diplômes et puis de l'autre côté, les possibilités d'emploi au niveau dont rêvent les jeunes. Hein, les jeunes qui font des études supérieures, ils se verraient bien tous cadres. Or, il n'y a pas d'emploi de cadre en proportion. Donc, du coup, il en faut plus pour avoir la même chose. C'est la définition de l'inflation. Hein, c'est-à-dire que maintenant, pour avoir un emploi de cadre, il faut plutôt un bac plus 5 ou une grande école. Alors que dans les années 60-70, hein, le bac offrait très souvent hein, l'accès aux emplois de cadre. C'est ça l'idée de l'inflation. Hein, c'est, il en faut plus pour avoir la même chose.
Paul Descoustins, est-ce que ça a permis, malgré tout, le fait que les diplômes supérieurs soient ouverts à plus de catégories sociales, une certaine mobilité sociale, justement, des élèves ?
Alors déjà, il y a une sélection qui se fait là par l'argent. On sait que les grandes écoles coûtent cher et de plus en plus cher. D'ailleurs, il y a une véritable inflation des frais de scolarité, notamment dans les écoles de commerce. Et après, quand on regarde les chiffres de réussite à l'université, on voit bien que cette ouverture sociale, c'est un échec. Il y a 60% d'échecs déjà en licence à l'université de manière générale. Seul un bachelier général sur deux obtient sa licence soit en 3, soit en 4 ans. Ça veut dire qu'il a déjà redoublé une fois. Et pour les bacheliers technologique ou professionnel, ça atteint péniblement les 6% qui obtiennent leur licence en 3 ou 4 ans. Donc on voit que clairement la sélection se fait de toute manière à l'université, même s'ils ont tous les deux un diplôme qui normalement est le même, c'est-à-dire le baccalauréat.
Marie Durubella, il y a
oui,
une forme de...
Oui, je vais en faire un petit peu ces chiffres, parce que le bachelier qui a un niveau moyen scolaire et qui se présente aux examens, eh bien, il réussit. Parfois, il met un an de plus, mais il réussit. Donc, ce qu'il faut, c'est analyser toute cette masse de jeunes qui, effectivement, échouent. C'est ce qui est effectivement dramatique, hein. C'est des jeunes qui n'ont pas forcément choisi la filière où ils sont, qui viennent peut-être, effectivement, d'un milieu social où ils sont les premiers à faire des études supérieures, donc ils n'ont pas les codes, comme on dit. Mais il faut bien voir que l'université n'est pas si sélective que ça. C'est une plaque tournante. C'est-à-dire que les jeunes, si on regarde les jeunes qui échouent la première année ou la deuxième année, on va les retrouver l'année d'après, soit dans des concours administratifs, soit dans des écoles de travailleurs sociaux. Enfin, si on regarde précisément, il faut arrêter de dire que c'est un grand massacre. Hein, ça, c'est pas vrai. Vous regardez vraiment ce que deviennent les jeunes qui échouent et qui sont les jeunes qui échouent. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a dit aux jeunes, quel que soit le bac, vous allez où vous voulez. On est le seul pays européen, c'est comme ça. Hein. Bah, effectivement, hein, si vous avez fait un bac de mécanique, j'ai rien contre la mécanique, vous allez en fac de droit. Eh ben non, vous n'y arrivez pas. Alors soit on dit, oui, bah, on va payer à ces jeunes des remises à niveau pendant un an, deux ans, trois ans. C'est au pays de décider ça. On peut décider ça. Hein. Il faut le chiffrer, mais on peut le décider. Mais à l'heure actuelle, ça ne marche pas. Et donc, ces jeunes échouent.
Paul de Coustin, Marie Durebella parlait à l'instant de jeunes qui n'ont pas les codes. Est-ce qu'il y a une question de capital culturel, social, qui pourrait expliquer qu'à diplôme équivalent, deux étudiants n'auront pas forcément les mêmes facilités d'intégration sur le marché du travail ?
Alors, par rapport à ça, je pense que c'est évident, mais il faut regarder ce qui est prévu aussi dans la réforme de l'université, qui se conduit en même temps que la réforme du bac. Le gouvernement attaque les deux chantiers en même temps. Voilà, exactement. Et ce qui est, il faut lire la charte des attendus qu'a publié le gouvernement. Donc, les attendus, c'est ces choses qu'on, cette liste de compétences qu'on va demander aux bacheliers maintenant pour intégrer telle ou telle filière. Donc, c'est listé par filière. Il y a 45 intitulés de licence, donc il y a 45 listes d'attendus différents et ils sont parfois très flous, mais ils préconisent par exemple d'avoir une ouverture au monde. Par exemple, si on veut faire du droit, il faut s'intéresser à la science politique ou avoir une bonne culture générale. Ça veut pas dire grand chose, mais derrière ces attendus, on a quand même une idée des inégalités qu'il peut y avoir entre les différents prétendants à rentrer dans ces filières. Parce que tout le monde ne parle pas à table de l'actualité politique du jour ou n'a pas lu tel grand livre, tel grand auteur. Et donc, c'est des inégalités qui peuvent, dès l'entrée de l'université, désormais maintenant qu'on demande des compétences à l'entrée, se créer entre les différents bacheliers.
Marie Durubella.
Non, ce qu'on peut craindre, c'est que reste à l'écart de ces projets la filière classe préparatoire grandes écoles, qui est là aussi très française. C'est une exception européenne d'avoir ces jeunes à qui qu'on va mettre en lycée avec des professeurs qui sont là tout le temps.
Je vais expliquer, c'est donc un processus pour entrer dans les grandes écoles qui se déroule dans les lycées français, mais qui est pour le coup la sélectif. C'est généralement réservé à une forme d'élite.
C'est très très coûteux. Hein, si on regarde le prix d'un étudiant en classe préparatoire, c'est deux fois plus qu'un étudiant à l'université. Et après, on a des grandes écoles qui sont très coûteuses aussi pour l'État, même si les jeunes payent beaucoup. Hein. On avait comparé le coût d'un étudiant de première année de droit avec celui d'un étudiant dans les super grandes écoles de notre pays, c'était de 1 à 14. Donc, ce qu'on peut craindre, hein, si on fait des grands discours sur l'université, très bien, mais tant que subsiste cette filière auquel personne n'ose toucher, personne, hein, eh bien, on entérine quand même un certain nombre d'inégalités, parce que les enfants de l'élite, entre guillemets, ils vont dans les grandes écoles, ils s'en fichent de l'université.
Alors, avant de continuer tous les deux, je voudrais vous faire écouter ceci.
On prend chaque année 800 ou 1000 jeunes qui sont exclus du système scolaire, qui souvent n'ont pas le bac ou ont le bac et sont dans la galère, font des bêtises, et on leur offre quelque chose. Et si au bout, ils vont au bout de ce processus, on leur garantit qu'ils vont trouver un job parce que on sait que la formation qu'on va leur apporter, c'est la meilleure formation qui puisse exister. Et on pense que le mode d'éducation pour qu'ils passionnent ces jeunes qui sont exclus du système scolaire, il doit être différent. Ça veut dire que si on leur met un prof et derrière on met 300, 400, 500 élèves, ça ne marche pas. Ils sont sortis du système scolaire parce que ça ne marchait pas. On essaie de faire ici ce qui est dans l'entreprise, c'est-à-dire de pousser les gens à bosser entre eux et à être capable, si un jour il y a beaucoup de travail, d'être capable de travailler un gros beaucoup d'heures d'affilée. Le but, c'est pas qu'ils aient une culture générale, le but, c'est qu'ils soient formés à faire du code informatique, à créer leur boîte dans ces secteurs-là, à aller rejoindre des grands groupes de l'internet ou d'autres choses. Mais c'est ça la finalité.
Voilà, c'est Xavier Niel, créateur de Free, patron d'Iliade, qui présentait en 2013 l'école 42 qu'il a fondée. Une école qui connaît un certain succès, gratuite, ouverte à tout le monde, sans condition de diplôme. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de modèle, l'un et l'autre, Paul de Coustin ?
Alors Xavier Niel, déjà, il connaît bien le sujet parce que lui-même, il a quitté sa classe préparatoire scientifique dans ses jeunes années pour créer sa boîte de Minitel Rose, donc qui a fait de lui un millionnaire très tôt. Effectivement, son modèle est assez disruptif, c'est un mot à la mode. C'est une école sur laquelle on juge et on recrute les étudiants uniquement sur la capacité à survivre à ce qu'ils appellent la piscine, c'est-à-dire ce mois en vase clos où il y a une tâche à remplir et la seule compétition, c'est celui qui réussit la tâche la plus rapidement possible. Après, c'est des écoles où on apprend le code informatique, donc c'est des écoles très spécifiques qui forment à des métiers très spécifiques. Je pense que pour ce genre de métier, ça s'applique bien et c'est une bonne idée. D'ailleurs, 42 est un vrai succès. Xavier Niel vient d'ouvrir une autre antenne dans la Silicon Valley, au cœur du réacteur. Est-ce qu'on peut l'appliquer à toutes les matières et tous les domaines? Je ne pense pas.
Marie Durubella, Emmanuel Macron l'avait visité pendant la campagne présidentielle. Je le cite, c'est ce dont nous avons besoin. C'est formidable. Est-ce que ça n'est pas un terrible aveu d'échec pour le système scolaire et universitaire français?
Pas forcément, parce que de toute façon, pour réussir en passant par ce type d'école, il faut déjà avoir quand même un niveau général pas nul, hein. Faut déjà avoir un niveau, alors qu'on peut situer peut-être un bon fin de troisième ou même un bon terminal. Donc, il faut déjà un niveau de formation générale qu'on acquiert à l'école jusqu'à nouvel ordre. Deuxièmement, il faut être capable de se reconvertir, hein, si besoin. Alors, pour le moment, c'est l'Eldorado, c'est les métiers auxquels prépare cette école. Très bien. Est-ce que ce sera toujours le cas? Bien malin est celui qui peut dire les emplois dont on aura besoin dans 20 ou 30 ans. Donc, je pense que c'est bien que, bon, c'est ce que Millefleurs s'épanouisse, hein, qu'il y ait une variété. Ça montre bien que les diplômes, c'est pas des parchemins. Ça dépend qu'est-ce qu'on apprend avec un diplôme. En France, on a tendance, on a une logique un peu du parchemin. J'ai un bac plus 5, j'ai un bac plus 3, j'ai un bac plus 2. On sait même pas ce qu'ils ont appris. Apprendre quelque chose de précis pour s'insérer, pourquoi pas, hein. C'est d'ailleurs ce qui explique aussi le succès, le renouveau de l'apprentissage, parce qu'on apprend aussi des compétences finalement. On n'apprend pas qu'un bac plus 2, on apprend à faire quelque chose. Et ça c'est bien, et c'est un bon message envoyé aux jeunes. Ceci dit, c'est effectivement pas la solution magique pour résoudre les problèmes de l'emploi des jeunes, évidemment.
Xavier Niel le dit très bien, le but ce n'est pas que les élèves aient une culture générale, c'est qu'ils soient capables de travailler beaucoup et de programmer. Est-ce que l'école à ce moment-là ne deviendrait plus une fabrique de citoyens, ce serait une fabrique de bons petits soldats pour les entreprises, Paul de Coustin?
Je pense qu'il y a une certaine logique à regarder les secteurs qui recrutent pour former des jeunes pour y aller. Ça, à mon avis, j'avais préparé quelques statistiques. On voit que, selon une enquête du Centre d'études et recherches sur les qualifications, le nombre de personnes qui ont un bac de niveau plus 2 ou plus 4, il y a 12% qui sont au chômage 3 ans après. C'est que 3% pour ceux qui travaillent dans le secteur de la santé et du social. La population française est vieillissante, donc il faut s'occuper de ces personnes-là. C'est un secteur qui recrute. Mettre de l'argent dans la formation de personnes vers ce secteur-là, ça peut être également un moyen intelligent de lutter contre le chômage des jeunes aujourd'hui.
Marie Durubella, sur l'idée de fabriquer des citoyens et pas seulement des futurs employés.
De toute façon, l'école a une fonction d'éducation qu'on a tendance justement à oublier parce qu'on devient très utilitariste. On dit, travaille pour avoir un emploi. Ça serait tellement mieux s'ils travaillaient parce que ça les intéresse. Évidemment, ça c'est le rêve des profs, hein. Mais je pense qu'il faut pas. On a assisté peut-être à le versant utilitariste, hein, vraiment de la formation, la formation professionnelle, y compris à l'université, a été durci parce qu'il y a du chômage des jeunes. Et ça serait peut-être pas mal qu'on revienne à se dire, on forme, on éduque. Et après, ça c'est le système un petit peu anglais, hein, on éduque, on a une formation assez générale. Et les entreprises, alors contrôlées avec l'ensemble de contrôle, hein, notamment par l'État, hein, contrôlent ça, mais les entreprises adaptent après. Mais il faut qu'ils aient un niveau de général et sans doute des compétences et une personnalité, hein, qu'ils soient formés au sein du système. C'est en fait le rôle noble d'une certaine manière de l'école qui serait valorisé.
Merci beaucoup, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux, Paul de Coustin, journaliste au Figaro étudiant, Marie Durubella, sociologue de l'éducation, d'avoir été avec nous. Marie Durubella, je rappelle le titre de votre ouvrage, L'inflation scolaire, les désillusions de la méritocratie, paru aux éditions du Seuil. Merci également à Florence Ponce, Arthur Tossou et au service documentation de RFI pour leur aide dans la préparation de cette émission et la réalisation. Il y avait Ravière, merci à lui aussi. Restez avec nous dans un instant. Un nouveau journal, excellente soirée à l'écoute de la Radio du Monde.